Écoutez, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour notre première conférence de cette année, qui s'intitule « Les enjeux sociaux et politiques de la circulation des œuvres littéraires depuis 1945, le cas de la traduction », et qui inaugure notre nouveau cycle qui s'appelle « Littérature en mouvement, éditer, dévoiler, traduire l'espace littéraire mondial ». Donc, je vous présente nos deux invités. Gisèle Sapiro, qui est à ma gauche, est directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS. Elle dirige le Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Elle est spécialiste de la sociologie des intellectuels, de la littérature, de la traduction, donc, de l'histoire et de l'épistémologie des sciences sociales. Elle a publié de nombreux textes, dont les deux monographies « La guerre des écrivains » qui a été publiée chez Fayard en 1999, « La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France au XIXe jusqu'au XXIe siècle » qui a été publiée au Seuil en 2011. Et elle a dirigé plusieurs ouvrages, dont « Pour une histoire des sciences sociales » chez Fayard en 2004, co-dirigé par Johan Albrun et Rémi Lenoir, Translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, publié au CNRS en 2008. Les contradictions de la globalisation éditoriale, publié au Nouveau Monde en 2009. L'espace intellectuel en Europe, publié à la Découverte en 2009. Ensuite, Johanna Popa, à côté d'elle, est docteur en sociologie de l'EHESS, chargée de recherche au CNRS à l'Institut des sciences sociales du politique. Elle a publié en 2010 « Traduire sous contrainte », « Littérature et communisme de 1947 à 1989 », publié aux éditions du CNRS en 2010. Elle a rédigé aussi deux chapitres dans l'ouvrage « Translatio » dont j'ai parlé tout à l'heure, dirigé par Gisèle Sapiro. Et elle a aussi rédigé un chapitre dans « Handbook of Translation Studies » à paraître chez John Benjamins à la fin de cette année, en 2013. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence et je vous annonce juste qu'il est interdit de manger dans l'auditorium. Voilà, merci.
Je pense que nous sommes toutes les deux, je me permets de parler au nom de Johanna, nous avons une collaboration ancienne et je suis très heureuse de cette occasion de poursuivre le dialogue. Cette occasion, je pense, de discuter de ce travail, cette approche de sociologie de la traduction avec des spécialistes de langue. Je pense que c'est particulièrement intéressant pour nous d'avoir des échos de votre part. Et donc, on va présenter une problématique autour des enjeux sociaux et politiques de la circulation des œuvres littéraires. Donc moi, je parlerai plus particulièrement du cas des traductions littéraires en français en essayant de prendre une vue historique sur la question. Et puis, Johanna se focalisera sur, fera un énorme zoom sur l'importation des littératures des pays de l'Est en France pendant la période communiste qui met en avant la dimension politique des enjeux dont moi, je parlerai un petit peu moins. Voilà. Alors l'histoire littéraire, qui a été, comme vous le savez, un des lieux stratégiques de la construction et de la reproduction des cultures nationales, a longtemps occulté le rôle des traductions dans la cristallisation de ces cultures. Pourtant, les traductions ont été constitutives des littératures en langue vernaculaire qui ont émergé dans le cadre du double processus de laïcisation et de démocratisation de la vie culturelle. Les traductions ont permis de constituer des répertoires linguistiques et stylistiques et un corpus dans les langues décrétées nationales, des modèles d'écriture aussi. Donc les cultures nationales se sont en partie construites sur un fonds commun d'œuvres littéraires constituées en classique par leur intégration au programme scolaire et des œuvres souvent traduites. Alors on observe généralement trois phases dans la formation des littératures nationales. Une première phase de traduction intensive qui permet la constitution d'un corpus d'œuvres en langue vernaculaire dont elles participent ainsi à la codification et à la standardisation comme langue nationale. Une deuxième phase où la production en langue nationale se développe et entre en concurrence avec la littérature traduite. Et là, les auteurs nationaux réclament une sorte de protectionnisme de la part de l'État-nation qui leur est accordé en échange de bons et loyaux services de contribution à l'édification de la culture nationale. Et dans cette phase, si les écrivains étrangers peuvent continuer à servir secrètement de modèle pour les écrivains nationaux, c'est afin que ces derniers, les écrivains nationaux, puissent mieux affirmer leur existence contre ces écrivains étrangers.
Dans la troisième phase s'opère souvent une distanciation à l'égard de ce rôle assigné aux écrivains dans la construction de l'identité nationale, les écrivains revendiquant leur autonomie par rapport à l'État et se tournant alors à nouveau vers les littératures étrangères pour renouveler leurs modèles d'écriture. Donc il y a une dynamique permanente de dialogue entre les littératures nationales et les littératures dites étrangères, je reviendrai à ce terme. Alors, par rapport à ce schéma de développement des littératures nationales, la littérature française présente des particularités du fait de son ancienneté et de la centralité de la langue française. Donc, je vais étudier ici comment ces particularités se sont manifestées dans le traitement des littératures étrangères au cours de trois périodes. Donc, celle de l'internationalisation de la République des lettres, de la fin du 19e à la Deuxième Guerre mondiale, celle de la montée de l'hégémonie américaine, puis celle dite de la mondialisation. Alors, comme principe de classification éditoriale, la notion d'étranger désigne en France la barrière linguistique plutôt que les frontières géographiques et administratives entre les États-nations. Le terme est dérivé en fait de la notion de langues étrangères, donc cette notion de littératures étrangères qui s'institutionnalise au milieu du 19e siècle avec la création de chaires de littératures étrangères. C'est le paradigme de l'étranger décrit par Michel Espagne. Devient à la fin du 19e siècle un principe d'organisation des catalogues des maisons d'édition qui séparent dans des collections distinctes les œuvres littéraires traduites de celles écrites en français. Et du coup, la production des écrivains francophones, belges, québécois, suisses, maghrébins, africains, est classée de ce fait en littérature française. À partir du moment où ils ont écrit en français, l'œuvre de Beckett, celle de Ionesco, celle de Condéra, sur laquelle on reviendra sûrement, s'est inscrite dans le territoire de la littérature française. Vous voyez que la langue est déterminante de cette notion d'étrangeté. D'étrangéité. Alors, le cas de ces étrangers devenus français, devenus des écrivains français avant de devenir français, là je parle de Beckett, Ionesco, Kundera, c'est-à-dire d'obtenir la nationalité française, pourrait nous donner l'illusion d'une perméabilité des frontières au sein de la République mondiale des lettres. En réalité, ils sont plutôt révélateurs des rapports de force inégaux qui organisent cet espace, et plus particulièrement de l'hégémonie qu'a longtemps exercée Paris en tant que centre de la vie littéraire. Ça en faisait un pôle d'attraction pour les écrivains des pays dits périphériques, selon ce modèle centre-périphérie. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une question de flux, de circulation. On pourra y revenir. Donc ici, on parle de l'Irlande, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, pour le cas de Beckett, Ionesco, Kundera. Surtout, ces cas exceptionnels masquent le sort de la plupart des écrivains étrangers en France voués à la marginalité, quelle que soit leur langue d'écriture. Enfin, il montre le travail de domestication de l'étranger qu'opère de manière extrêmement sélective le champ littéraire français, je reprends le concept de Pierre Bourdieu, s'agrégeant les auteurs les plus novateurs pour les intégrer à son canon et perpétuer ainsi son capital symbolique. Alors, ce processus n'est pas autogénéré, il est l'œuvre de toute une chaîne d'agents, individus, éditeurs, agents littéraires, écrivains, critiques, libraires et institutions, revues, presse, prix littéraires, qui jouent un rôle médiateur et dont on peut reconstituer l'action pour élucider ce phénomène. Donc c'est à une autre forme de domestication de l'étranger que je vais m'intéresser ici, plutôt que celle de la domestication sous forme de l'appropriation par la littérature française. Je vais m'intéresser à celle qui tient et maintient l'étranger à distance en le confinant à des collections spécialisées, tout en le domestiquant par la voie de la traduction. Donc la démarche que j'adopte ici relève de la sociologie historique. Je pense que Johanna se reconnaîtra dans ça, mais tu pourras moduler si tu... En fait, si les Translation Studies, largement inspirées de la théorie du polysystème d'Evans-Zoar et des travaux de Guidon Touri, ont mis à juste titre l'accent sur l'importance de l'espace d'accueil, ce qu'ils appellent la culture cible, pour comprendre les phénomènes de traduction, notamment du point de vue des principes de hiérarchisation et des normes de traduction elles-mêmes, donc pour comprendre ces phénomènes de traduction et de circulation des textes. Et s'ils ont aussi montré la fonction de la traduction dans cette culture, hein, c'est eux qui ont insisté les premiers sur l'importance des traductions pour comprendre même les cultures nationales, et notamment sur la question de l'importation des modèles littéraires via la traduction, comme je l'ai mentionné au départ. Cette approche qui est centrée sur l'analyse des textes demeure souvent fonctionnaliste, faute de s'intéresser aux agents, c'est-à-dire aux individus et aux institutions qui sont les porteurs de ces circulations. Et en fait, la sociologie des champs de Pierre Bourdieu conduit à s'intéresser à ces acteurs, en particulier aux maisons d'édition qui jouent un rôle majeur dans ces phénomènes circulatoires depuis le début du XIXe siècle, ainsi qu'aux enjeux sociaux qui les sous-tendent, tels que les luttes internes aux champs littéraires d'accueil et les stratégies d'appropriation, de marquage, de démarcation, etc. Donc la théorie des champs ouvre des perspectives pour différencier les modes de circulation entre le pôle de grande production, hein, là où circulent par exemple les best-sellers, régis par la logique marchande, les chiffres de vente, c'est tout un important domaine de la traduction, et le pôle de production restreinte où prévalent des critères intellectuels et esthétiques et où se situent le plus souvent ces collections de littérature étrangère dont je vais parler. Alors, combiné à l'analyse des flux de traduction qui ont permis à Johan Elbron de dégager des régularités de fonctionnement de l'espace mondial des traductions, c'est-à-dire des flux de circulation qui, en fait, sont structurés par l'inégalité des échanges entre langues centrales et langues périphériques, c'est-à-dire que les langues centrales exportent plus qu'elles n'importent. Hein, on traduit plus du français du français vers le coréen que l'on traduit du coréen vers le français. Et ça n'est pas simplement un reflet de la taille des marchés, mais c'est aussi d'autres enjeux. Cette inégalité, donc cette théorie permet de rendre compte des transformations socio-historiques du marché international de la traduction qui s'est formé bien avant l'ère de la globalisation et qui a contribué à la nationalisation des cultures. Alors la première phase, celle de l'internationalisation de la République des lettres, bon, je dois remonter en arrière pour qu'on ait en tête le fait que la littérature française a longtemps occupé une position hégémonique dans cette République mondiale des lettres. Hein. Je renvoie à l'ouvrage de Pascal Casanova. La puissance de la monarchie absolue, sa politique de soutien à une production littéraire et artistique qui devait garantir le rayonnement de cette monarchie dans les cours d'Europe, et la monarchie promouvait le français contre le latin, bien sûr, et contre l'Église, le développement d'un marché du livre dans le royaume, ont contribué à faire du français la langue de culture des élites européennes au XVIIIe siècle. Et en fait, c'est contre la domination du français, cette hégémonie du français, que se sont formées les littératures nationales en langue vernaculaire à partir de la fin du XVIIIe siècle, de l'Écosse à l'Italie, en passant par l'Allemagne. Le mouvement a été porté par la bourgeoisie intellectuelle, la Bildungsbürgertum en Allemagne, qui opposait à la culture de cour de l'aristocratie européenne des traditions nationales inventées à cet effet. Et bon, il trouve un écho en France sous la Révolution, qui jette les bases d'une culture nationale laïque, puis avec De l'Allemagne, de Madame de Staël, qui est paru au moment de l'effondrement de l'Empire. Et en 1830, sont créées ces chaires de littérature étrangère qui instituent donc ce que Michel Espagne a appelé le paradigme de l'étranger, qui va désormais structurer la perception des littératures traduites comme représentatives des cultures nationales, arrachant en fait la littérature à l'universalité. Donc c'est plus la littérature allemande que la littérature anglaise, en fait, qui n'était pas vraiment différenciée et identifiée à l'Angleterre. Alors ce n'est qu'à partir de ce moment et en étroite relation avec ces littératures étrangères que se forma la notion de littérature française selon un principe de division qui allait se transférer de l'enseignement supérieur à l'édition avec l'apparition à la fin du XIXe siècle des collections de littératures étrangères distinctes de celles de littérature française comme la bibliothèque cosmopolite chez Stock. Donc le mouvement de vernacularisation et de nationalisation de la littérature est étroitement lié à l'industrialisation de l'édition et aussi au processus d'alphabétisation et à la généralisation de la scolarité. De ce point de vue-là, la traduction a partie liée avec la démocratisation de l'accès à la lecture. Hein. La traduction, parce que c'était les élites qui parlaient le français, donc à partir du moment où on traduit en italien, bah et ça va de pair avec la construction d'une éducation nationale en italien, ça permet aux enfants scolarisés de lire dans leur langue. Donc la traduction qui se généralise à partir de 1850 dans le commerce du livre, joue un rôle majeur, comme je l'ai dit, dans la constitution des champs de production culturelle nationaux. Alors que Balzac avait été lu de son temps en français partout en Europe, la diffusion internationale de l'œuvre de Zola passe plus par la traduction qui lui permet de toucher un public plus large que celui des élites culturelles maîtrisant le français. Alors la littérature française jouit alors d'un prestige inégalé de la Russie à l'Amérique latine. En Italie, par exemple, l'éditeur Treves lance en 1867 une collection de littérature destinée au grand public qui va compter jusqu'en 1916 136 traductions du français, dont Balzac, Flaubert, Maupassant, Anatole France, Zola, Bourget, contre 75 de l'anglais, 44 de l'allemand, 34 du russe. Donc ça vous donne un peu une idée du rapport de force symbolique entre ces littératures. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, les échanges interculturels sont de plus en plus structurés par les États-nations qui tentent de réglementer le marché du livre. Il y a la Convention de Berne qui est adoptée en 1885 à l'initiative de la Société des gens de lettres française qui reprennent la législation française de 1793 sur le droit d'auteur et qui donc est une première tentative de régulation internationale de ce marché pour enrayer la contrefaçon. Et en fait, le modèle français d'organisation du monde des lettres, avec ses associations professionnelles, la Société des auteurs dramatiques, la Société des gens de lettres, se diffuse aussi dans d'autres pays. Mais la position de la France se trouve fragilisée à cette époque par sa défaite face à l'Allemagne en 1870, dont les séquelles ont marqué durablement la conscience collective. On voit à ce moment-là émerger un nationalisme de droite, jusque-là le nationalisme était plutôt de gauche, sur le modèle allemand. D'ailleurs la vogue que vont connaître en France le roman russe et la littérature scandinave à la fin du 19e siècle, et les usages subversifs qui en sont faits littérairement par une fraction des symbolistes, entraînent une réaction xénophobe parmi certains écrivain français, qui n'est d'ailleurs pas étrangère à leur prise de position anti-Dreyfusarde à cette époque. Qui plus est, Paris est devenu à cette époque un des lieux de prédilection des avant-gardes littéraires et politiques, comme le futurisme, les futurismes russes et italiens, et aussi un lieu d'accueil des réfugiés politiques, c'est aussi un lieu d'attraction des étudiants étrangers, donc c'est un centre important, mais qui entraîne des réponses parfois xénophobes de la part des intellectuels, de certains intellectuels français. Alors, bon, évidemment, ces formes de xénophobie culminent au moment de la Première Guerre mondiale. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'internationalisation du monde des lettres est favorisée par la politique de pacification. La création du Pen Club en 1921 a pour objectif premier de rassembler les écrivains épris de paix et de liberté en vue de défendre les valeurs de l'esprit contre le nationalisme. À l'incitation de Philippe Berthelot, qui est alors secrétaire général du Quai d'Orsay, nombre d'écrivains français, dont Anatole France, André Gide, Paul Valéry, Jules Romain, ont rejoint leurs homologues anglais dans ces instances au sein du Pen Club. Et au même moment est créée la création de la Société des Nations en 1924 et la mise en place d'une commission de coopération intellectuelle en son sein va contribuer à favoriser l'intensification des échanges. C'est d'ailleurs cette commission, cet institut international de coopération intellectuelle qui a créé cet outil formidable de l'index Transnationum, qui est donc l'index de l'UNESCO qui recense les traductions chaque année, justement pour comprendre la circulation et suivre les échanges et les favoriser. Encastrés dans le marché du livre et dans les relations interétatiques, les échanges littéraires internationaux sont surtout promus par des acteurs du champ littéraire qui occupent des positions clés dans l'édition et dans les instances officielles et qui parviennent à préserver une certaine autonomie de ces échanges par rapport aux contraintes économiques et politiques. En France, des revues comme la Nouvelle Revue Française, fondée par André Gide et publiée par Gallimard, et aussi la revue Europe, qui est publiée par les éditions Reader, avec le parrainage de Romain Rolland, s'ouvrent au dialogue interculturel à la faveur des compétences linguistiques et des réseaux internationaux de leurs collaborateurs, non sans s'attirer de virulentes attaques de la part du camp nationaliste et populiste. Alors, entre 1929 et 1935, le nombre d'ouvrages traduits en français augmente de façon significative. On passe de 430 à 834. Alors, ça peut paraître dérisoire par rapport à aujourd'hui, mais enfin, c'était quand même assez significatif. Ça a presque doublé pour retomber ensuite, mais il va dépasser 1000 titres traduits en 1938. Et ce n'est pas un simple reflet de la croissance de la production nationale, parce que la part de ces traductions dans la production nationale française s'accroît. Elle passe de moins de 4% à 8%, donc le double, entre 1930 et 1938, pour atteindre 13% en 1938. La littérature représente plus de la... Il faut toujours avoir en tête que ce n'est pas que les ouvrages de littérature qui sont traduits, mais la littérature représente toujours plus de la moitié des traductions. Et du point de vue des langues, c'est l'anglais qui arrive en tête, mais aussi bien l'anglais britannique que l'anglais américain qui s'affirme dans les années 30, comme on va le voir. Donc l'anglais passe d'un tiers à près de la moitié, suivi de l'allemand, du russe, de l'italien et de l'espagnol. En 1931, la maison Gallimard, qui cumule alors un certain, commence à cumuler du capital symbolique dans le champ littéraire, crée la collection du monde entier, qui va devenir une des plus importantes collections de littératures étrangères après la guerre. En 1972, cette collection pouvait se prévaloir de 320 auteurs provenant de 35 pays, dont 16 prix Nobel. Donc, dans l'introduction au catalogue de 1936, il est écrit... Les éditions de l'ANRF, ça s'appelait comme ça à l'époque, les éditions Gallimard, ont dès l'origine considéré qu'il était de leur rôle de faire connaître au public français les manifestations les plus caractéristiques de toutes les littératures étrangères. Leur catalogue compte alors 368 titres traduits d'environ 368 titres traduits sur environ 2200 titres publiés, dont deux tiers de littérature. L'anglais, là encore, arrive largement en tête du fait de l'essor des traductions de l'américain à partir de la fin des années 20. C'est un titre sur quatre. Et les ouvrages en provenance du Royaume-Uni totalisent un tiers. Il y a des auteurs comme Conrad, Meredith, D.H. Lawrence qui sont les favoris. Suit le russe qui arrive avec 17,4% et qui se renforce grâce au rachat du fonds des éditions Jacques Chiffrine, qui était un émigré russe, qui a créé aussi les éditions de la Pléiade que Gallimard rachète à ce moment-là et qui va diriger jusqu'en 1941, date de son licenciement par Gallimard en raison de ses origines juives. Et il est parti aux États-Unis et il a créé, avec l'éditeur de Kafka, Pantheon Books, qui est devenu un des importateurs importants de la littérature européenne aux États-Unis. C'est intéressant de suivre les trajectoires de ces importateurs d'un pays à l'autre. Alors après le russe arrive l'allemand et on voit des traductions, c'est 16% avec des traductions par exemple d'immigrés comme Thomas Mann et Alfred Döblin, mais surtout les essais de Freud qui sont traduits à ce moment-là chez Gallimard. Et puis l'un derrière on trouve l'espagnol 4,6% et l'italien 3%. Alors la plus nouvelle de ces littératures, c'est la littérature américaine, que Gallimard commence à introduire en France grâce au travail de repérage effectué par Maurice Edgar Coindreau, qui est alors professeur de français à Princeton. L'importation de l'œuvre de Faulkner a été une entreprise difficile et risquée. La traduction de « Tandis que j'agonise » était déjà composée quand Gaston Gallimard a décidé d'en différer la sortie pour faire passer en premier « Sanctuaire » en 1933 parce qu'il le jugeait plus accessible. Donc, vous voyez, des stratégies d'éditeurs pour implanter un auteur en mettant des ouvrages plus faciles d'accès que d'autres. Et puis, autre stratégie pour introduire un auteur étranger, c'est de le faire préfacer par un écrivain français. Alors, on demande à Malraux, par exemple, d'introduire Sanctuaire, qu'il va d'ailleurs définir comme, je cite, l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier. Et c'est une manière donc d'universaliser cette œuvre et de la sortir un peu de son carcan de littérature américaine. Alors, si cette préface parvient à attirer l'attention des lettrés, elle ne lui a pas permis de dépasser le cercle des lettrés parce qu'en 1938, 3900 exemplaires de Sanctuaire étaient écoulés. 1008 de « Tandis que j'agonise ». Et pourtant, malgré l'indifférence du public, j'ai vu les archives Gallimard, les dossiers dans les archives Gallimard, hein, selon les termes de Gaston Gallimard, il ne renonce pas à publier Faulkner. Donc là, on voit des logiques qui ne sont pas des logiques purement économiques. Hein. Il renonce pas, il continue à publier toute l'œuvre, Lumière d'août en 35, Sartoris en 37, Le bruit et la fureur en 38, 13 histoires en 39. Et on voit que c'est un investissement sur le long terme parce qu'il croit dans cet auteur. Et en même temps, cet investissement est compensé en 39 par le succès de la traduction d'Autant en emporte le vent de Marguerite Mitchell qui se vend à plus de 800 000 exemplaires. Voilà. Et d'ailleurs, les traductions de l'anglais et de l'américain vont alimenter la production en français dans les genres populaires du roman policier et du roman sentimental. Alors, la littérature américaine a été en même temps une source de renouvellement des techniques narratives au pôle de la littérature la plus novatrice en France. On sait que Sartre s'est inspiré des romans de Dos Passos et de Faulkner. Dos Passos était aussi traduit chez Gallimard pour l'écriture de la nausée. Il va déclarer aussi caduque la technique du narrateur omniscient au profit de l'adoption d'une perspective intradiégétique. Alors, autre source de renouvellement à cette époque, c'est évidemment, des procédés romanesques, c'est évidemment la traduction du Château de Kafka qui paraît chez Gallimard en 1938. À cette époque, l'hégémonie de la littérature française, qui avait joué un rôle central dans la formation d'un canon international, commence à décliner. De loin, la plus traduite en italien jusqu'à la fin des années 20, par exemple, elle va bientôt être concurrencée par les traductions de l'anglais et de l'allemand. Et puis, ce mouvement d'internationalisation qui culmine au milieu des années 30 est interrompu brutalement par la Deuxième Guerre mondiale. Le nombre de traductions en français tombe à 119 en 1941, la politique culturelle allemande dont la France occupée visait explicitement à briser l'hégémonie culturelle française. Et en fait, la régulation des flux de traduction était une des pièces maîtresses de cette politique. C'est-à-dire que les Allemands voulaient faire traduire le plus de livres possible de l'allemand en français et empêcher les traductions du français en allemand. Donc vous voyez, la traduction, ça peut être un enjeu politique et je pense qu'on va le voir tout à l'heure plus en détail. En tout cas, seuls 11 auteurs français ont été autorisés à être traduits en allemand et c'était une gratification par rapport à, en échange de bons services, bons et loyaux services collaborationnistes. Tandis que les traductions de l'allemand en français atteignent un tiers des traductions en français à cette époque. C'est 113 sur les 322 parus en 42. Alors jusqu'à la guerre, les traductions en français provenaient majoritairement du continent européen, mis à part la littérature américaine et l'œuvre de Tagore. Et en fait, l'horizon géographique va s'élargir après la Deuxième Guerre mondiale, notamment sous l'impulsion de l'UNESCO. Donc je passe à la deuxième période, la partie qui va de 1945 à la période qui va de 1945 à 1980, au début de l'ère de la mondialisation, qui marque une ère qui voit le marché mondial du livre se libéraliser et s'unifier progressivement. L'hégémonie américaine s'affirme sur ce marché, tandis que celle de la France décline. Du point de vue de la littérature traduite en français, deux traits caractérisent cette nouvelle ère. D'une part, l'accession de la littérature américaine à une position hégémonique. Et de l'autre, l'élargissement de l'horizon géoculturel au-delà des frontières de l'Europe et du monde occidental. Élargissement auquel Gallimard contribue avec le lancement des collections La Croix du Sud, donc c'est l'Amérique latine, et Connaissance de l'Orient. Donc c'est une collection qui porte sur les œuvres venues de pays asiatiques, j'y reviendrai. Alors de 1949, date à laquelle l'édition française retrouve son rythme d'avant-guerre, à 1958, les traductions représentent environ 10% des livres publiés en France, soit une moyenne de 1023 par an, qui place la France en troisième position parmi les pays traducteurs. Alors, quelques-unes figurent sur la liste des plus fortes ventes publiées en 1955 par les nouvelles littéraires. Il y a par exemple Le Petit Monde de Don Camillo de Guareschi, qui est traduit de l'italien en 1951 par les éditions du Seuil et qui arrive de loin en tête avec près de 800 000 exemplaires vendus jusqu'en 1955. Et puis on a quelques succès comme Le Zéro et l'Infini de Koestler, 450 000 exemplaires, qui sont directement liés au contexte politique de la guerre froide. Et il y a le journal d'Anne Frank qui en 1957 n'avait atteint que 30 000 exemplaires et qui fera jusqu'en 70 plus de 800 000. Mais évidemment, ces grands succès de traduction ne reflètent pas la diffusion de la plupart des traductions qui est beaucoup plus restreinte. Alors du point de vue des langues, les traductions en français proviennent de 30 langues, mais c'est de l'anglais que sont traduits dès 1946 plus de la moitié des livres. Et d'ailleurs, ça va atteindre un pic de deux tiers des traductions vers 1949. Et c'est surtout des traductions de l'américain, en fait. Hein. Et le modèle américain, l'importance de le modèle américain se voit aussi dans la manière dont il est approprié par les écrivains français, parce que Boris Vian, quand il choisit un pseudonyme, il choisit de publier sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, un écrivain américain qui témoigne en fait de ce prestige acquis par la littérature américaine. Et en même temps, on voit l'entrée massive d'une littérature beaucoup plus commerciale, dont le roman Ambre de Kathleen Windsor, qui se vend à 300 000 exemplaires jusqu'en 55, devient le symbole et suscite aussi une opposition de la part de la droite gaulliste comme de la gauche communiste contre ce qui est perçu comme un impérialisme économique. Et donc la défense du livre français devient un enjeu politique et économique. Bon, c'est une période où Paris reste un lieu d'attraction pour les écrivains de tous les pays. Henry Miller, Richard Wright, James Baldwin, Chester Himes y trouvent une liberté dont ils ne bénéficient pas aux États-Unis. Et on verra que nombre d'auteurs aussi fuient les régimes communistes d'Europe de l'Est pour s'y installer et se mettre en place des circuits depuis l'Europe de l'Est de traduction. Légaux, illégaux, comme on va le voir. Si l'hégémonie américaine s'est fortement fait sentir dans la période d'après-guerre, on assiste cependant dès les années 60 à une diversification des littératures traduites et à un élargissement de l'horizon géographique, comme je le disais. Déjà dans la collection Du Monde Entier chez Gallimard, qui est un bon indicateur de ces évolutions, on voit que le nombre moyen de titres publiés annuellement augmente entre les années 50 et 60. Donc on passe de 15 titres par an à 37 titres par an, une moyenne qui s'est maintenue, qui va se maintenir. Et en fait, elle se maintient à 37 parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà en termes de gestion, mais ils auraient de matière à publier plus de 37 titres par an en traduction. Et on voit les langues se diversifier surtout, c'est-à-dire qu'on passe de 14 langues à 24 langues et le nombre de pays représentés de 23 à 38. Alors même si l'anglais reste prépondérant, sa part diminue. Hein. C'était 2/3 des titres et ça passe à 42% au profit des autres langues. Et en fait, Gallimard donne voix à toute une nouvelle génération d'écrivains de par le monde. Alors par exemple, la langue espagnole, qui est en hausse par rapport à l'avant-guerre, renforce sa présence avec la découverte d'une littérature novatrice non seulement en Espagne, à Juan Guatisolo, mais aussi en Amérique latine, grâce à Roger Caillois, qui lance en 52 donc cette collection La Croix du Sud, avec Borges, Cortázar en Argentine, Fuentes au Mexique, Neruda au Chili, Vargas Llosa au Pérou. Et la parution en français de fiction de Borges en 52 suscite aussitôt l'intérêt d'éditeurs américains, donc le français devient un sas pour accéder aussi au marché mondial de la traduction. Donc éditeurs américains, anglais, italiens commencent à s'intéresser à cet auteur parce qu'il est paru chez Gallimard. La nouvelle littérature italienne s'impose aussi avec Elio Vittorini, Pavese et Elsa Morante. Traductions de l'allemand sont un peu plus rares, parce qu'on est dans une relation difficile à l'époque avec l'Allemagne, mais malgré tout, elles augmentent dans les années 60, et on voit notamment apparaître, c'est la période où émerge le groupe 47, hein, alors c'est plutôt au seuil, avec Günter Grass et Heinrich Böll, mais chez Gallimard paraît l'œuvre de Thomas Bernhard, donc autrichien, et de Peter Handke. Le grec aussi apparaît à partir des années 60, au moment où le coup d'État qui a suivi la libéralisation de 63 et la dictature des colonels conduit nombre d'intellectuels à s'exiler en France. Par contre, les échanges, on va le voir, avec les pays de l'Est restent plus difficiles et ne seront que partiellement rétablis par la création chez Gallimard d'une collection spécifique, littérature soviétique, dirigée par Aragon. Après 57, c'est-à-dire au lendemain du... C'est en 58, c'est au lendemain du dégel. Alors, je voudrais dire un mot de la collection Connaissance de l'Orient, qui est, avec la Croix du Sud, le témoin de l'élargissement de cet horizon géographique au-delà du continent européen. Elle est née en 53 de la convergence d'un projet de collection chinoise qui avait été envisagé par Etiamble et d'un programme de traduction mis en place par le service de l'interpénétration littéraire de l'UNESCO. Donc c'est comme ça qu'il s'appelait ce service, où Roger Caillois dirigeait la division des lettres. Et comme il l'explique à Caillois dans une lettre datée de juillet 53, Etiamble dit donc qu'il entend mettre, je cite, « à la portée du public français cultivé des ouvrages de haute qualité littéraire inédits en notre langue ou si mal traduits qu'autant vaut n'en point parler » et choisit de façon à illustrer les mœurs et les valeurs culturelles de chacun des pays en cause, Inde, Chine et Japon pour commencer, mais j'aimerais aussi inclure la Perse et le monde arabe. Ni l'éditeur ni moi-même ne chercherons le succès commercial immédiat. Nous voulons former le public, lui éclairer l'Orient. Mais il va de soi que nous devrons, au début surtout, lui proposer des titres qui l'encouragent à s'instruire, des romans qui, en l'amusant s'il se peut, le renseignent sur des peuples qu'il connaît mal. Or, la plupart des grands romans de l'Asie sont inconnus en France. Donc voyez les termes « former le public », « l'encourager à s'instruire », « le renseigner sur des peuples qu'il connaît mal en l'amusant ». On voit donc que la fonction assignée aux traductions des littératures étrangères est une fonction pédagogique qui vise à donner une ouverture sur l'étranger par des voies récréatives. Et ça, ça découle du rôle joué par la littérature dans la construction des identités nationales. Et cette idée que la littérature nous fait connaître les mœurs d'un pays et qui sous-tend aussi l'enseignement des langues et civilisations étrangères en France, qui se développe fortement à la même époque. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre le développement des traductions et le lien de cette formation aux langues étrangères en France. Par exemple, la création en 1977 de l'agrégation d'hébreu moderne contribue à la multiplication des importateurs de l'hébreu, de la littérature en hébreu. Donc à cette époque, l'édition connaît un essor sans précédent. Entre 55 et 78, le nombre de livres publiés en France, en RFA et au Japon triple. Et il est multiplié par plus de 6 aux États-Unis. Et en 74, l'éditeur Robert Laffont constate, je cite, « Paris n'est plus qu'une escale dans le rallye des capitales littéraires dont New York est devenu le centre ». Cette croissance de la production américaine renforce la position hypercentrale de l'anglais dans le système mondial des traductions. Et à la fin de la décennie 70, 45% des traductions dans le monde étaient faites à partir de l'anglais. Donc c'est presque la moitié. Tandis que la part des autres langues qu'on peut caractériser comme centrales, c'est-à-dire l'allemand, le français et le russe, se situe entre 10 et 12% pour chacune. Donc là, je m'appuie sur les données analysées à partir de l'index Translationum. Il y avait 8 langues, dont l'espagnol et l'italien, qui occupaient une position qu'on peut caractériser de semi-périphérique, avec une part qui variait entre 1 et 3% de ce marché mondial. Je vous montre le tableau des répartitions. Toutes les autres langues se situaient dans une position périphérique, c'est-à-dire moins de 1% des traductions faites dans le monde. Alors cette évolution et cette tendance de concentration, contrairement à ce qu'on dit toujours sur l'ère de la globalisation, que ça aurait favorisé les échanges, en fait, ça va favoriser la concentration autour de l'anglais. Donc cette évolution coïncide avec des mutations du monde de l'édition, la concentration et l'internationalisation qui sont favorisées par le tournant néolibéral des années 70, qui voit l'abandon du thème du développement pour celui de la mondialisation, en vue de, en fait, mondialisation pour quoi faire ? Pour ouvrir les frontières à la libre circulation des biens et des capitaux. Un marché mondial du livre se forme avec des instances spécifiques, comme les foires internationales du livre, et chaque ville culturelle a désormais son instance, hein, ça va de Pékin à Guadalajara, en passant par Ouagadougou, on a des foires partout dans le monde, et des acteurs qui se professionnalisent sur ce marché international de l'édition, des représentants de droits étrangers dans les maisons d'édition, des agents littéraires, des traducteurs spécialisés de certaines langues. Et donc on voit une forte augmentation des traductions pendant cette période. On a entre 1980 et 2000 plus de 50% des traductions, donc 2000 par rapport à 1180. Mais en fait, cette intensification, comme je disais, ne se traduit pas par une véritable diversification des échanges. Hein. Vous voyez, si vous regardez ces chiffres, qu'en fait, la langue anglaise est passée de 45% des traductions dans le monde à 60%. Donc, c'est des traductions faites à partir de l'anglais. Hein. 60% des livres traduits dans le monde sont traduits à partir de l'anglais. Voilà. Alors, on observe des changements, notamment après la chute du mur de Berlin et la chute des régimes communistes. C'est surtout la chute du russe qui est absolument remarquable. Vous voyez que le russe était une langue centrale, c'est des 12%, presque 12% de ce marché, et ça tombe à 2,5% après 89. Donc, vous voyez que c'est aussi des facteurs politiques qui influent sur la circulation. Et par contre, ce qu'on voit un peu émerger, on ne le voit pas là dans les statistiques, mais c'est le pôle asiatique qui se renforce pendant cette période. L'espagnol aussi augmente un petit peu. L'italien s'est maintenu autour de 3%. L'allemand et le français arrivent péniblement à se maintenir autour de 9-10%. Voilà. Alors, dans cette configuration, le français reste la deuxième langue centrale. Hein. Alors, peut-être que dans les années 80, c'était l'allemand qui traduisait le plus. Désormais, c'est le français. À partir des années 90, c'est en français qu'on traduit le plus. Donc là, maintenant, je me situe du côté de l'importation et pas de l'exportation. Là, vous pouvez voir l'évolution de la part des traductions en français dans le nombre total de livres traduits dans le monde. Et vous voyez qu'il y a une forte augmentation pendant cette période. Vous pouvez comparer aussi les traductions, la part qu'occupent les différentes langues dans les traductions faites dans ces langues, dans le tableau que je montre là. Donc on voit qu'il y a un investissement côté français très fort dans la traduction. Et cette évolution des traductions n'est pas le reflet mécanique de la croissance du marché du livre français, parce que la part des traductions dans la production nationale augmente pendant cette période. Et donc, ça veut dire qu'il y a un investissement dans la traduction. Et en fait, alors de quelle langue est-ce qu'on traduit ? Bon, évidemment, c'est le nombre de traductions de l'anglais qui augmente le plus. Il a plus que doublé. Et on voit un changement dans les langues traduites. C'était l'allemand qui était la langue la plus traduite en français après l'anglais. Mais elle semble dépassée depuis la fin des années 90 par l'italien, voire par le japonais, si on considère le nombre de contrats d'acquisition signés par les éditeurs français. Alors, les contrats d'acquisition, ça veut dire les livres dont on a acheté les droits. Donc, ça ne prend pas en compte, évidemment, les classiques qui sont hors droit. Donc, c'est un indicateur du marché, mais pas de l'ensemble des traductions qui se font en France à la même époque. Mais, évidemment, la part du japonais augmente fortement à cause de l'importance des mangas sur le marché. Et c'est intéressant d'observer ce renforcement des échanges avec le Japon. Au moment de la construction européenne, on aurait pu penser que les échanges intra-européens vont se renforcer, mais en fait, c'est pas forcément ça qui arrive. Voilà. Et ce qu'on voit aussi, c'est une remontée des échanges, mais je pense que Johanna en parlera, avec les pays d'Europe de l'Est, après un déclin à la suite de la chute du mur. Voilà. Donc... Alors évidemment, dans ce système mondial, c'est toujours la littérature qui est la catégorie de livres la plus traduite. Et il faut là encore différencier les best-sellers des autres langues. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le pôle de grande production, les best-sellers, eh bien ce sont principalement des traductions de l'anglais. C'est-à-dire les polars, les romans sentimentaux, c'est presque toujours des traductions de l'anglais. Je crois qu'il y a eu un best-seller chinois, mais c'est à peu près tout. Par contre, la diversité linguistique, la diversité culturelle est la plus forte au pôle de production restreinte en raison de ce lien traditionnel entre langue et identité nationale et aussi du fait de l'existence de ces collections de littérature étrangère qui veulent diversifier les langues qui sont représentées dans leur collection, parmi elles. Alors c'est une sorte de paradoxe parce que ces collections de littérature étrangère séparent littérature française et littérature étrangère et en même temps leur existence garantit une certaine représentativité des différentes langues, parce que si on abolissait cette frontière, si on prend par exemple une collection comme très prestigieuse comme Fiction et compagnie au Seuil, qui est une collection qui mélange auteurs français et d'autres langues, eh bien on voit que les traductions sont principalement faites de l'anglais. Alors c'est une sorte de paradoxe que je livre à votre méditation, que paradoxalement c'est ce maintien des identités nationales qu'on pensait disparues à l'ère de la globalisation, mais évidemment ça n'est pas le cas, et continue à structurer le marché mondial de la traduction, mais paradoxalement, ce sont elles qui permettent le maintien d'une certaine diversité linguistique et culturelle du point de vue de la circulation des œuvres littéraires. Et en même temps, avec cette problématique, cette diversité est assurée par les États-nations parce qu'ils proposent des aides à la traduction, parce que la traduction, c'est, comme je vous ai dit, on est au pôle de production restreinte, ça ne vend pas forcément beaucoup, on est à 1 000-1 500 exemplaires dans le meilleur des cas, et donc il faut des aides pour traduire, parce que ça coûte cher. En fait, les langues qui ont le plus de chances d'être traduites, à part les langues centrales comme l'anglais, ce sont les langues qui vont pouvoir... pour lesquels on va pouvoir s'adosser sur une aide étatique. Par exemple, les Pays-Bas ont développé une telle politique, Israël également, et on a vu les littératures des néerlandaises et israéliennes apparaître très fortement sur la scène française, la littérature coréenne aussi. Alors, ce n'est pas seulement les aides qui permettent, c'est aussi parce qu'il y a eu des importateurs importants, des grands traducteurs qui ont permis l'existence de ces littératures. Mais c'est difficile pour une langue périphérique d'exister sans un ensemble d'intermédiaires parmi lesquels ces représentants étatiques. Alors en France, il y a quand même quelque chose qui permet d'aider les littératures dites périphériques. C'est un programme qui est très spécifique à la France, qui a été mis en place par le CNL en 89, par quelqu'un qui était traducteur lui-même et qui était sensible à cette question, et qui visait aussi à aider les langues périphériques face à la domination croissante de l'anglais. C'est un programme d'aide à la traduction en français pour la littérature contemporaine. On trouve rarement ça dans d'autres pays. On trouve souvent des les aides, les pays aident souvent à promouvoir leur littérature nationale à l'étranger parce que ça favorise le rayonnement du pays. Mais c'est beaucoup plus rare de voir un programme d'aide à l'intraduction, à l'importation des littératures étrangères. Et donc ce programme du CNL a permis la traduction d'œuvres de plus de 30 langues, je ne sais plus le nombre de pays. Voilà. Alors, je dirais encore ça avant de conclure. Ce qui est peut-être paradoxal dans cette importance des littératures nationales, c'est que par rapport à ce qui a émergé comme la notion de world literature à partir du début des années 90, qui favorisait au contraire les parcours migratoires, les écrivains qui n'étaient pas forcément assignés à une seule identité, mais qui étaient des migrants, qui étaient un peu les oubliés des littératures nationales, qui n'avaient pas tous les aussi les femmes, hein, parce que souvent, si on regarde en traduction, déjà les femmes ne sont pas extrêmement représentées, elles sont de plus en plus en littérature, mais ça dépend des pays, mais en traduction, elles sont encore moins représentées dans la sélection, sauf vers l'anglais, parce qu'il y a un intérêt pour justement les femmes ou les écrivains francophones, justement pour les minorités. Donc il y a une sorte de paradoxe que ces identités nationales risquent aussi de maintenir l'importance d'une certaine élite littéraire fabriquée nationalement et de sous-estimer les migrants, enfin les gens issus de populations non autochtones, les femmes et ainsi de suite. Voilà. En tout cas, ce qui est frappant, c'est ce maintien de ces identités nationales dans la perception des littératures étrangères. Par exemple, j'ai travaillé sur les traductions du français, des littératures du français aux États-Unis. On peut recenser 45 nationalités des auteurs traduits, mais ça apparaît sous l'étiquette littérature française et c'est promu par le gouvernement français, c'est aidé par le gouvernement français comme littérature française. Et puis, en Angleterre, par exemple, on va parler de la Frenchness de ces œuvres. Voilà. Donc ça resterait, on parle de littérature américaine, on parle de littérature néerlandaise, littérature israélienne, littérature coréenne, ça continue de structurer la perception qu'on a de ces littératures, alors que, bon, on peut parler de cette fiction des littératures nationales aussi. Voilà, donc juste pour conclure, donc la traduction n'est pas seulement un révélateur des mutations du marché du livre, mais aussi des inconscients culturels collectifs. À travers elle se construit notamment la représentation de l'autre, de l'étranger. Les traductions ont étroitement participé à la construction des identités nationales et des relations culturelles internationales. Comme on l'a vu, c'est à travers le paradigme de l'étranger que la littérature traduite s'est différenciée en France de la littérature française, sur la base d'une identification entre langue, nation et pays, qui excluait les minorités et les peuples colonisés. Comme je l'ai montré, le cadre national continue à marquer aussi bien les pratiques que les représentations, confortées par l'action des États-nations, en premier lieu la France, qui voit un moyen de reconnaissance de leur existence dans ces dispositifs, et ce, malgré la production de best-sellers mondialisés par des multinationales qui ont leur siège central aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est-à-dire on voit de plus en plus la production de ces best-sellers mondialisés qui n'ont pas vraiment d'ancrage national. Et aussi, malgré, à l'autre pôle, la protestation des défenseurs des minorités dominées et des laissés pour compte qui promeuvent la world literature. Le problème aussi de cette world literature, c'est qu'elle occulte la question de la traduction, parce que très souvent, c'est une world literature en anglais ou en français, hein, donc dans des langues centrales. Et il est significatif, et donc c'est souvent la langue qu'apprennent les élites de ces pays, donc qui n'est pas accessible, par exemple, aux fractions populaires. Et il est significatif qu'aux États-Unis, dans un contexte de dévaluation des traductions, parce que les pays qui exportent le plus importent le moins, et notamment les traductions sont de plus en plus abandonnées aux États-Unis parce que considérées comme pas rentables, et bien il y a un mouvement qui s'est constitué aux États-Unis en faveur de la traduction, qui d'ailleurs l'a rebaptisé International Literature parce que ça fait plus chic que traduction qui est dévaluée, promouvant la traduction comme une cause non seulement culturelle, mais aussi comme une cause politique en faveur de la diversité culturelle et d'une véritable mondialisation qui disent plus authentique, parce qu'elle fait entendre des voix de différents pays dans différentes langues. Et voilà, donc on voit que pour être domestiqué en tant que tel, l'étranger doit conserver son étrangéité. Voilà, je vais passer la parole à Johanna.
Donc je vais enchaîner avec...